En 1983 a eu lieu en Australie un ultra-marathon, une course de 875 km pour relier Sydney et Melbourne en courant. Un défi extrême et rare. Et comme on peut l'imaginer, les coureurs étaient tous des hommes jeunes, dans la force de l'âge, entre 20 et 30 ans, des athlètes hors pair, à une exception. Un berger de 61 ans, du nom de Cliff Young, qui s'est présenté sur la ligne de départ, vêtu d'un vieux survêtement et de bottes, sous les ricanements d'une partie du public. 5 jours, 14 heures et 4 minutes plus tard, Cliff Young a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée, devançant son premier rival de plus de 10 heures, à 61 ans. Son secret ? Il ne s'est jamais arrêté. Tous les autres athlètes s'arrêtaient quelques heures pour dormir chaque nuit, repartaient tôt le matin. C'était comme ça que c'était a priori prévu, c'était une évidence pour tout le monde. Ça semblait humainement impossible de courir sans discontinuer. Mais Young, un berger qui avait plusieurs fois passé des nuits à courir après ses moutons, on imagine, ne s'est jamais arrêté et il a gagné la course. Alors, ça paraît tellement improbable qu'on est sceptique en entendant cette histoire, et pourtant, elle est bien véridique. Elle est largement documentée. Il y a même eu un film en Australie qui a été fait à ce sujet. Les apparences sont parfois trompeuses. Et dans le récit que nous abordons ce matin, on fait face également à des apparences trompeuses. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 13 à 23. Dans les Bibles noires qui doivent être près de vous, c'est à la page 1072. Page 1072 dans les Bibles noires, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 23. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère ». Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et le retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Nous ne pourrons pas ce matin examiner chaque petit détail de ce texte, mais nous allons tout de même examiner ce texte en relevant en particulier 3 contrastes. 2 rois, tout d'abord, puis 2 projets. Et enfin, 2 exodes. 2 rois, 2 projets, 2 exodes. Donc, tout d'abord, 2 rois. Dans l'épisode qui précède, les célèbres mages vont voir Hérode, le roi d'Israël à cette époque-là, et lui demandent « Où est le roi des Juifs ?» Et comme on peut l'imaginer, Hérode, qui pensait être le roi des Juifs, l'a mal pris. Alors, il ne le montre pas trop au début, mais la suite du texte le montre bien. Y aurait-il un autre roi des Juifs que lui ? Et dans tout cet extrait, l'apôtre Matthieu nous dresse le portrait de 2 rois. D'une part, le roi reconnu par les hommes, en tout cas certains d'entre eux, Et puis, d'autre part, le roi reconnu, envoyé par Dieu. Voyons d'abord le portrait qui nous est fait du roi Hérode. Au verset 13, un messager divin qui avait déjà annoncé à Joseph la naissance de Jésus intervient une nouvelle fois pour l'informer que le roi Hérode en veut à la vie de son enfant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les visions d'anges ne sont pas chose commune dans la Bible. C'est même quelque chose de rare, d'inhabituel. Mais elles interviennent à des moments clés, des moments absolument charnières du dévoilement du plan de salut de Dieu. Et c'est le cas dans ce texte. Et les propos de cet envoyé, de cet ange, sont clairs et terribles. Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Verset 13. Alors, en tant que papa d'une petite fille de 2 ans et demi, j'essaye, sans vraiment y arriver, de me mettre un instant à la place de Joseph et de Marie. Comment est-ce que je réagirais si j'apprenais un jour que l'État en voulait à mon enfant en bas âge, voulait se saisir de cet enfant pour le supprimer? Heureusement, ça paraît aujourd'hui inconcevable, encore qu'il y a quelques décennies seulement, à Paris, on allait chercher les familles entières et on les mettait dans des trains pour les envoyer dans des camps de concentration. Mais on aurait pu penser qu'Hérode ne se serait pas senti particulièrement menacé par l'annonce de la naissance d'un petit garçon inconnu dans un village de Judée. A priori, on ne voit pas trop ce qui pourrait l'effrayer là. Mais la suite va révéler le sombre projet d'Hérode. Non seulement il veut tuer Jésus, mais pour garantir, pour assurer en quelque sorte cet assassinat, il est prêt à supprimer tous les petits garçons en bas âge du village de Bethléem. Verset 16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, en ne retournant pas le voir après avoir vu Jésus, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. On fait face à un roi comploteur, paranoïaque et meurtrier, semblable finalement à pas mal de dictateurs de notre temps. Et il faut reconnaître que ce portrait que nous avons ici d'Hérode dans l'évangile de Matthieu correspond très bien à ce que nous apprenons sur Hérode par ailleurs dans d'autres sources historiques de l'époque. Notamment l'historien juif Flavius Joseph nous présente Hérode comme un tyran absolu qui, entre autres méfaits, a fait assassiner sa femme Marianne, sa belle-mère Alexandra et 2 de ses fils, Alexandre et Aristobule. Tout de même, un homme paranoïaque, obsédé par la trahison, capable des pires atrocités pour éviter d'être supplanté. Voyons maintenant le portrait de l'autre roi dans ce texte, l'enfant Jésus. Au chapitre 1, il nous a déjà été présenté comme le Christ, c'est-à-dire le Messie, le roi sauveur et libérateur que les Écritures hébraïques annonçaient depuis des siècles. Et l'identité royale de Jésus est confirmée à nouveau au début de ce chapitre 2, puisque les mages sont à la recherche du roi des Juifs, comme on l'a vu, verset 2. Donc on a bien un contraste entre 2 rois et un contraste extrême. D'un côté, un vieux dictateur tyrannique et paranoïaque qui siège sur le trône de Jérusalem, tout en étant allié à l'Empire romain. De l'autre côté, un enfant né dans une famille modeste qui doit être emmené en hâte dans un pays étranger pour éviter la mort. Un roi que personne ne connaissait, qui n'avait ni palais, ni armée, ni richesse. Et l'évangéliste Matthieu insiste sur cette humilité et cette fragilité de Jésus, puisque 6 fois dans ce petit extrait, il le décrit comme un petit enfant. Ce contraste doit nous faire réfléchir. Dieu, le Tout-Puissant, aurait pu, lui dont la puissance est sans limite, envoyer son Messie avec fracas, avec une armée d'anges, pour balayer Hérode et ses protecteurs romains en un instant. Au lieu de cela, il a choisi de faire naître le Messie au sein d'une famille de réfugiés, inconnus et vulnérables. Et pourtant, l'issue de cet épisode est sans appel. Hérode meurt, comme finissent d'ailleurs par mourir tous les dictateurs, tandis que ce petit bébé qui lui échappe est venu pour régner d'un règne qui, et c'est ce que nous montrera la suite de l'évangile de Matthieu et du Nouveau Testament, un règne qui ne prendra jamais fin. De fait, aujourd'hui, en décembre 2015, plus personne n'est soumis à Hérode le Grand, ça fait belle lurette, mais même plus non plus à Hitler, à Staline, à Pol Pot et autres consorts. En revanche, des centaines 2 millions d'êtres humains reconnaissent en Jésus-Christ leur Seigneur, leur roi, comme Guillaume l'a fait tout à l'heure. En lisant ce texte, mais plus largement en nous préparant à fêter Noël, nous ne pouvons pas passer à côté de cette démarche de Dieu, ce choix de Dieu d'incarner sa puissance dans l'humilité et la faiblesse apparente, tout en déjouant la puissance apparente, mais illusoire, des hommes. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, écrira « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. » 1 Corinthiens 1,27. Aujourd'hui encore, nous sommes constamment tentés de croire que la puissance, l'autorité ultime se trouve du côté du pouvoir financier, militaire, politique, culturel. Mais être chrétien, c'est croire que ces puissances, plus ou moins respectables selon les cas, sont limitées et devront en définitive s'effacer face à l'établissement du règne de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est croire que le vrai souverain, celui qui aura le dernier mot ultimement sur notre monde, c'est le roi sauveur Jésus, qui a déclaré après sa résurrection, et on le voit à la fin de ce même évangile de Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », Matthieu 28, 18. Donc Noël est pour nous l'occasion de refaire le point. Est-ce que nous avons réorienté notre vie pour la placer sous l'autorité du souverain véritable Jésus ? Ou bien est-ce que nous l'avons placé sous l'autorité des diverses puissances de ce monde, des diverses influences, plus ou moins respectables, encore une fois, mais qui frappent les yeux quelques instants avant de disparaître pour toujours. Nous avons comparé deux rois, on va passer à deux projets que le texte met en contraste, celui d'Hérode et celui de Dieu. Deux projets s'affrontent donc, Hérode veut supprimer Jésus et, si j'ose dire, il veut tuer dans l'œuf toute possible revendication d'un autre roi des Juifs. Dieu, lui, veut protéger Jésus. Et pourquoi ? Parce qu'au-delà de Jésus, ou plutôt par Jésus, Dieu veut sauver de nombreux hommes, de nombreuses femmes. C'est ainsi que Jésus nous a été présenté, au chapitre 1, verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc d'un côté, il y a un projet de mort, d'autre côté, un projet de vie. Vous avez peut-être vu comme moi ces images datant du mois d'août 2014, lorsque Daesh était en pleine conquête du nord de l'Irak et des hommes, des femmes, des enfants s'enfuient à pied dans le désert, dans une chaleur étouffante, désespérés. Et puis un hélicoptère de l'armée régulière irakienne intervient et fait monter un grand nombre de ces réfugiés pour les emmener en sécurité. Et ces images étaient marquantes et émouvantes parce que on a là des populations qui fuient des soldats, des hommes armés qui veulent les tuer et qui sont délivrés par des hommes armés, des soldats qui ont un projet inverse, celui de les délivrer. Un projet de mort, un projet de vie. Et de manière bien sûr très différente, cette opposition radicale se retrouve dans notre texte. D'un côté, un effort conscient et organisé pour tuer Jésus avec toutes les manigances du roi Hérode. De l'autre, un effort conscient et organisé pour le protéger, avec des actions étonnantes, secrètes de Dieu, qui intervient discrètement pour, en quelque sorte, exfiltrer Joseph, Marie et Jésus. D'un côté, un homme qui, malgré toutes les apparences de la prospérité et de la puissance, est terrorisé à l'idée de perdre ce qui donne un sens à sa vie, le contrôle, le statut qui est le sien. Et pour préserver cela, il est prêt à tout, et même à tuer un enfant. De l'autre, il y a le Créateur qui est parfaitement et éternellement comblé en lui-même, qui n'a rien à prouver à personne, ni à s'accrocher à un quelconque privilège, et qui au contraire trouve sa plus grande joie dans le don, dans la délivrance du mal, dans la vie renouvelée. Il me semble qu'au-delà du personnage d'Hérode, on retrouve là une opposition radicale entre deux manières de vivre, de considérer la vie. D'un côté, la vie vécue pour soi. Alors certes, Hérode est un exemple extrême. J'imagine que personne ici n'irait aussi loin pour conserver ses privilèges. Mais à moindre échelle, est-ce que ce n'est pas une tentation constante pour nous de vivre centré sur soi ? Non pas forcément par un égoïsme caricatural, mais en axant finalement toutes ses pensées, ses valeurs, ses efforts à la préservation, sur la préservation de ce qui fait notre identité, de notre statut, de notre position, de ce qui pour nous donne un sens à notre vie. Et on peut se poser cette question, jusqu'où serions-nous prêts ou sommes-nous prêts à aller lorsqu'on sent menacer ce que nous considérons comme nos privilèges, notre statut, notre position dans la vie. La question mérite d'être posée. Alors, certains trouveront que je pousse trop loin la comparaison avec le roi Hérode, mais ce qui me frappe dans sa réaction à ce roi, c'est qu'il semble envisager au début du chapitre que Jésus est bien le Messie. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait demandé aux spécialistes de la loi de lui dire où doit naître le Messie ? Et pourquoi est-ce qu'il se sentirait menacé par la naissance de ce petit garçon ? Donc, Hérode est prêt à envisager que Jésus est bien le Messie. Et face à cette affirmation, il a un choix à faire. Il aurait pu reconnaître dans la venue de ce Messie un événement qui exige son adoration, sa soumission face au maître véritable. Et Hérode aurait pu être libéré de ses faux semblants en reconnaissant celui qui est son Seigneur à lui, qui a autorité sur sa vie. Mais il a fait le choix inverse, à tout prix, préserver ses privilèges et même tuer le Messie s'il le faut. Jusqu'au bout, il a voulu mener à bien ses projets aux dépens de ceux de Dieu. Et au-delà du personnage et du projet extrême d'Hérode, nous faisons tous de diverses manières face à ce choix essentiel. Est-ce que ce sont nos projets ou les projets de Dieu qui gouvernent notre vie ? Alors, bien sûr, il est normal que nous ayons tous divers projets. Je ne dis pas de dire qu'on ne devrait jamais avoir de projets dans la vie. La question essentielle est de savoir si ces projets en eux-mêmes nous font avancer, si ce sont ces projets en eux-mêmes qui nous font avancer, qui nous donnent notre identité, qui nous donnent notre raison d'être. Ou bien est-ce que ces projets sont des occasions de nous attacher toujours plus au projet de Dieu pour chacun d'entre nous, un projet de vie nouvelle, de relations marquées par la paix, la confiance en lui, le témoignage de son salut, la générosité, l'amour, le don. Or, ce texte nous montre que les projets de Dieu sont en définitive les seuls qui durent véritablement et que de toute façon, Dieu les accomplira et qu'il est futile de chercher à s'y opposer. Non seulement Hérode a échoué à tuer Jésus, mais c'est lui qui est mort, peu de temps après d'ailleurs. Il a dû rendre les armes face à la limite que Dieu place depuis la nuit des temps, depuis la Genèse, que Dieu impose à l'homme pécheur, la mort. Tandis que Jésus a poursuivi sa mission et la poursuit aujourd'hui encore, comme il le dit lui-même, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avons tous divers projets qui concernent notre vie à court ou long terme même. Et certains de ces projets peuvent être excellents, j'en doute pas. Mais qu'en restera-t-il dans un an, dans 20 ans, dans 50 ans ? Qui s'en souviendra dans 2 siècles ? En revanche, le projet que Dieu a mené à bien par Jésus-Christ est encore en cours aujourd'hui. C'est parce que ce projet est encore d'actualité que nous nous rassemblons ce matin. C'est parce que ce projet est encore d'actualité que Guillaume vient de déclarer publiquement qu'il a reçu une vie nouvelle par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'investissement plus sûr pour nos projets que d'entrer dans les projets de Dieu. Parce que les projets de Dieu sont éternels. 2 rois, 2 projets, pour terminer 2 exodes. Parmi les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Matthieu est celui qui est le plus nettement ancré dans la culture juive. Et il souligne depuis le début de son évangile l'ancrage de l'histoire de Jésus dans l'histoire d'Israël. Dans le premier verset de l'évangile, Jésus est présenté déjà comme fils de David, fils d'Abraham, puis comme le Christ, le Messie, le roi qu'annonçaient les prophètes depuis des siècles. Et puis on a vu déjà qu'au début du chapitre 2, il est présenté comme le roi des Juifs. Mais Matthieu va plus loin. Dans ce récit, si on y fait bien attention, il est question de l'Égypte. Il est question d'un père et d'une mère israélites qui essayent de sauver leur fils des intentions meurtrières d'un roi. Il est question d'une fuite, puis d'un retour lorsque le roi meurtrier est mort. Il est question d'un homme qui va délivrer son peuple. Ça vous rappelle quelque chose ? On ne peut pas s'y tromper. Avec insistance, Matthieu établit un parallèle entre l'histoire de Jésus et l'histoire de Moïse et de l'exode des Israélites. Écoutez par exemple la comparaison entre ces 2 versets. Exode 4, 19. « L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Tandis que l'ange dit à Joseph au verset 20 de notre texte, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Quasiment les mêmes mots. Alors aujourd'hui encore, même en France, au XXIe siècle, l'histoire de Moïse a un assez fort pouvoir évocateur entre le film de Charlton Heston, la comédie musicale, les 10 commandements, ou bien un film comme Magnolia, où une pluie de grenouilles s'abat sur la Californie, référence aux plaies d'Égypte. Les références ne manquent pas. Mais à bien plus forte raison encore, le récit de l'Exode était et est profondément inscrit dans la mémoire collective d'Israël. Et c'était le cas même à l'époque de Jésus. Et à cette époque d'occupation romaine, de rois illégitimes comme Hérode et de drames en tout genre, de nombreux Israélites attendaient de tout leur cœur une nouvelle intervention de Dieu en faveur de son peuple pour le libérer de l'oppression et de la souffrance. Mais ils ne s'attendaient pas à ce type d'intervention. Qu'est-ce que l'ange a dit à Joseph, chapitre 1, verset 21 ? Elle mettra au monde un fils et te lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de l'occupation romaine ? La tyrannie d'Hérode ? Non, de ses péchés. Dieu a envoyé Jésus pour libérer des hommes et des femmes en proie à une captivité bien plus profonde que celle que l'oppression d'une puissance étrangère. Une captivité qui concerne tout autant le Parisien du XXIe siècle que le Judéen du premier siècle. Ce n'est pas pour rien donc qu'on trouve autant d'échos de l'Exode dans ce récit. Mais Matthieu va même un peu plus loin au verset 15 en citant un verset tiré du prophète Osée, Osée 11, verset 1. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Dans le texte d'Osée, le fils en question, c'est le peuple d'Israël. Et certains, du coup, accusent parfois Matthieu de citer Osée hors contexte. Mais c'est passé complètement à côté du sens profond de cette citation. Parce que pour l'évangéliste, Jésus est justement celui qui va incarner dans sa personne la nouvelle relation que Dieu veut conclure avec son peuple. Il est lui-même le nouvel Israël. Juste après notre texte, si vous voulez des preuves encore, j'en ai, Matthieu évoque le baptême de Jésus. De même que le peuple d'Israël est passé par les eaux de la mer des joncs, Jésus passe par les eaux du Jourdain. Puis là où Israël a passé 40 ans à s'égarer dans le désert et à faire face à des tentations de tout genre auxquelles ils ont généralement cédé, Jésus va passer 40 jours dans le désert où il va résister à la tentation. De manière saisissante, Dieu a voulu que Jésus récapitule en quelque sorte l'histoire de son peuple pour commencer par lui une nouvelle histoire, une nouvelle libération après une longue captivité. Et Matthieu va passer le reste de son évangile à dévoiler ce que sera cette délivrance qui commence à Bethléem, mais qui passe ensuite par le mont de Golgotha, où Jésus est crucifié, où il meurt à notre place, pour vous et moi, pour subir la juste condamnation de Dieu contre nos fautes, contre lui. Avant de culminer ce plan de délivrance sur la montagne galiléenne où Jésus proclame sa victoire, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Et sur cette même montagne, Jésus ordonne à ses disciples d'aller proclamer en son nom la délivrance, non pas seulement à Israël, mais à toutes les nations. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Dans 5 jours, ce sera Noël. L'occasion, je l'espère, de bons moments pour chacun, avec de la famille, des amis, je l'espère. Mais au-delà du sapin, des cadeaux, calendrier de l'Avent, du vin chaud, etc., n'oublions pas que Noël est l'histoire d'une délivrance, d'une libération et d'un appel que Dieu, le Créateur, adresse à chacun. Alors si nous sommes encore captifs d'une vie vécue sans Dieu, marquée par cet effort inlassable à donner du sens nous-mêmes à notre vie, à chercher à maîtriser nous-mêmes notre vie, que cette saison soit l'occasion de venir à Jésus qui nous offre le plein pardon de Dieu, un nouveau départ avec lui, une vie nouvelle. Et si nous avons déjà placé notre confiance en lui, que Noël soit l'occasion pour nous de revenir à l'essentiel, au cœur de notre foi et de nous laisser bouleverser et transformer à nouveau par la délivrance de Dieu. Et si nous sommes vraiment convaincus qu'en Jésus, nous trouvons l'essentiel de notre vie, veux-tu aujourd'hui le confesser comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Ce que j'ai demandé à Guillaume tout à l'heure. Si vraiment nous croyons que Jésus, c'est l'essentiel de notre vie, ce qu'il y a de plus important pour chacun, alors comment ne pas être porteur de cette espérance? Par nos paroles, par nos actes, par notre manière d'être autour de nous à l'occasion de ce Noël. Amen.